acheter est égal être. C'est la créativité qui domine et c'est ce qui rend un style unique.
Je pense que pour tous ces gens qui ont besoin de, à la fois de se vêtir à moindre coût et de se affirmer un style, une identité par le vêtement, il faut rappeler qu'on peut se créer une super identité avec des fringues de seconde main. Il y a plein de personnes qui se baladent dans la rue avec des looks incroyables, terriblement stylés, qui sont 100% vintage, c'est possible aujourd'hui. Donc voilà, on a envie de raconter ça aussi pour inciter les gens à aller à pousser la porte des ressourceries et...
Les galeries recyclettes, c'est ce dimanche à la salle athlétiste des Ponts-de-Cé, libre à vous d'y aller ou pas, mais c'est important de garder quelque chose en tête. L'ultra fast fashion et plus largement les entreprises de prêt-à-porter fast fashion également se servent de la pauvreté pour en plus en créer d'autres. Hartmut Rosa appelait à résonance le fait de donner plus de sens à ce que l'on possède. Cela passe par un changement des modes de consommation jusqu'au sein de la sphère de la seconde main. Il faut être fier de porter quelque chose qui a du sens et peut-être qu'un article ayant fait sa vie chez quelqu'un mais n'ayant pas exploité celle d'un autre pour venir à nous a peut-être une histoire plus noble à considérer et rayonnera plus dans ces temps sombres.
C'est de la poésie que tu nous proposes, Mathieu.
Un peu à la fin.
Waouh, c'était beau. En tout cas, bon, merci beaucoup pour cette chronique, cet édito d'actualité, édito digne de Libération. On pourra te retrouver prochainement, peut-être dans les lignes du.
J'espère. Voilà, s'il y a un journaliste de Libération qui nous écoute, je serai aux Galeries Recyclettes si tu veux me voir en physique.
Voilà. Ah, tu le tutoies. Tu tutoies
oui,
le journaliste.
Exactement.
D'accord.
Ouais. On crée de la proximité, c'est important.
Ouais. Bon. En tout cas, merci beaucoup. On se revoit dans deux semaines, me semble.
Oui.
La semaine prochaine pour du cinéma avec deux ans et demi.
Oui, exactement. On va parler de dossier 137.
Je te l'avais pas demandé, mais c'est OK.
Non, mais je le dis. Voilà, on crée un petit teasing comme ça.
Eh bah, teasons alors. Voilà. En tout cas, tiens, votre avis, juste avant qu'on redonne la parole à Pierre Sidonie sur les fripes, vrai acte militant ou un peu cher aussi des fois?
Ça dépend, faut tomber sur la bonne fripe, bien sûr. Mais après, il y a d'autres trucs, comme par exemple, je sais que je prends les vêtements de ma grand-mère ou des trucs comme ça. Je custom et hop, ça part.
Et toi, Jody?
Ouais, ça dépend des friperies, mais oui, les grands-parents. Moi, je sais que je prends beaucoup de ma grand-mère ou de ma mère.
Et toi, Pierre, est-ce que tu as un pull qui a 40 ans d'âge?
Ouais, celui-là, je pense. Hein. Il y a même un trou là, l'épaule.
Ah bah ça va, un trou au bout de 40 ans.
Ouais. Je sais pas quel âge il a, mais moi mon problème c'est ma taille. Je fais quasiment 2 mètres et j'ai pas toujours. Déjà nous les hommes on a.
Faut avoir une grand-mère qui fait 2 mètres.
Voilà.
Sinon c'est.
Alors j'ai plus mes grand-mères de toute façon.
Ouais. Et bon. Puis il faut la taille qu'il faut.
Voilà, puis elles étaient plus petites.
Bon bah.
Non ouais je vais faire le même nombre de friperies et je vais trouver 3 fois moins de fringues. Voilà.
Bon, en tout cas,
j'adore les friperies. Je trouve ça hyper. C'est incroyable la tonne de fringues qu'on jette. C'est fou, quoi.
Ah oui, bon, on pourrait refaire le monde.
Et parce qu'on va la recyclerie des Mauges, c'est pareil. Ils jettent des fringues. Et en plus, c'est même pas nous qui les recyclons. C'est horrible. Et la partie la fast fashion. Ah là là, quel monde.
C'est terrible.
C'est terrible.
C'est terrible, surtout que du coup, le textile ne peut pas être forcément réutilisé au-delà même. On va dire du vêtement en tant que tel, parce que forcément il y a du réemploi textile, etc. Et du coup, ce réemploi-là, il est pas possible, juste parce que justement on donne plein de tissus qui sont mélangés et qui du coup peuvent pas être extraits pour faire des vêtements. Donc c'est assez terrible.
Non, mais dernièrement j'ai vu, ils faisaient de l'isolation avec. Donc
si
voilà.
On arrive à trouver des solutions.
Bah, avec le cerveau humain, on trouve beaucoup de solutions quand même. Hein, mais.
Pierre, on se garde un petit peu de temps pour conclure sur l'événement de demain là avec Orange Platine qui s'appelle Roda. Alors d'un mot très simple aussi, déjà tu voulais remercier peut-être des partenaires, des personnes impliquées, tu voulais aussi reparler du collectif de DJ féminine.
Ouais, je voulais dire que dans Orange Platine, dans Café Frappé, dans Bardane, on a à cœur de mettre des femmes sur scène, enfin de travailler avec des femmes, mais c'est délicat, il y a toujours ce plafond de verre un peu dans. C'est pas évident il y a beaucoup moins de femmes représentées dans le monde de la musique. Et donc là, c'est aussi une manière pour Orange Platine de valoriser ce collectif qui, est un collectif de DJ féminin qui valorise donc les femmes dans l'électro. Loupa de Lille vient faire son set de DJ à la fin. C'est un vrai choix d'Orange Platine de faire appel à ce co-DJ. Donc il y a un partenariat. Je pense qu'il y aura une autre DJ sur la prochaine date, la prochaine Roda. Et Loupa de Lille, elle fait un un set super sympa, c'est l'électro ambiant et elle chante en même temps. Voilà, c'est hyper. Il faut venir voir ça. Ça va être super chouette. Électro méditative, rythmée, chantée. Waouh.
Est-ce que tu peux l'épeler? Je sais pas si je peux trouver.
Loupa, ouais, c'est loop comme une loupe. Donc c'est un terme qui est utilisé en musique. C'est L-O-O-P-A. Ça vient de loop, du verbe loop, enfin de loop en anglais, et de Lille. Donc de et Lille, c'est Lille mais avec un S. L'I-S-L. Loupa de Lille.
Je trouve pas, mais c'est pas grave. On va trouver, t'inquiète pas, on va trouver.
Ouais, je vous mettrai les liens après. Si tu as une page dans Topette, puis... t'as une page.
Oui, on mettra
tu
ça. Dans
pour la billetterie, par exemple, tu vois, si on voudrait que les gens y viennent, par exemple.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, il reste le. On va même mettre un chrono parce qu'il faut se dépêcher.
Ouais.
C'est donc demain soir à partir de 18h-18h30.
18h30, ouverture des portes, 19h, initiation.
Et toutes les infos, on peut les trouver où, là, si on est déjà sur Internet?
Sur la billetterie et l'Oasso, sur le Instagram d'Orange Platine, on a fait beaucoup de com sur Instagram, Facebook.
Orange Platine Roda.
Ouais, Orange Platine Roda, vous allez trouver sur Angers. On a même fait une pub, donc vous allez être répertorié, redirigé.
Et toi, des activités te concernant ou pas prochainement?
Moi, il y a mon compte Instagram aussi, pierre.charrier9. Après j'ai beaucoup d'activités en dehors aussi du rythme signé, notamment la fanfare Pili Pili, Fla Duo, Notso Brasil, la Batucada Chemillé, voilà, la compagnie Beleza.
Bon, et puis bah si vraiment en 30 secondes on peut se faire un.
Ouais, là on fait ça.
Ouais, je coupe l'ambiance sonore et puis on.
Ouais,
on
c'est maintenant ou pas?
Bah c'est maintenant.
Ok, d'accord.
Sans trop faire de blanc pour qu'on, parce qu'on est en radio, mais.
Ouais. ce qu'on va faire, déjà, ce qu'il faut comprendre dans le rythme signé, c'est que tous les signes, ils sont à exécuter en différé. D'accord? Donc, quand vous allez voir les signes, il faudra pas les faire tout de suite, il faudra les faire après. Il y a une espèce de levée qu'on peut pas faire à la radio, qui est ce mouvement d'emmener ce bras vers l'avant ou vers l'arrière, ou la main vers le haut et vers le bas. Et donc, c'est quand ça arrive là qu'on joue. Ok. Et l'autre règle, c'est qu'il faut que vous répétiez tout ce que vous allez créer, là, ce que vous allez proposer. Il va falloir que vous trouviez quelque chose qui se répète. Ok? Ça va. Et après, la dernière règle, c'est faut regarder la personne qui dirige, parce que sinon vous pouvez louper des trucs. Donc le premier signe qu'on va voir, c'est, je vais vous le demander, c'est comme quand on dit viens à quelqu'un, viens par là, on ramène les doigts vers soi. Ok, je vais faire ça. Par exemple, je vais demander Mathéo, toi, tu veux bien nous proposer quelque chose?
Ouais.
Ok. Ouais. Donc je te dis viens et je te dis attends, on va se donner un petit tempo. Par exemple, on va faire. Je sais pas si on entend. Je vais me mettre là pour qu'on entende bien. Ça va être notre tempo qui va nous lier un peu tous ensemble. Ok. Ok. Je te dis 3-4, tu y vas. 1, 2, 3. Et à toi. Alors, donc Mathéo, il vient de faire le signe.
Il faut que tu fasses un bruit musical.
Et du coup, il faut que tu crées un.
Moi, je pensais que c'était ça l'initiation.
En 30 secondes, je pensais que ce serait un peu plus simple que ça.
Okay. Alors, je switch. Du coup, on va voir un autre signe. C'est super.
Après,
cool.
Non, j'adore. Je l'ai fait de la main gauche tout à l'heure. Là, je le fais de la main droite.
Ouais, c'est
un vrai changement.
Ouais, il y a un vrai changement.
Très radiophonique.
Voilà. Et à gauche, c'est mieux quand même, hein. On est d'accord, non?
Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai pris la
Ok, donc là, ça va être vachement plus radiophonique. On va faire une petite texture de bruit de bouche comme ça. Ça veut dire texture, ouais, comme ça. Ça veut dire ASMR un peu. Ok. La personne, voilà, allez-y, faites des petits bruits. Ouais. Hop. Et nous, Pierre, on va faire un rythme avec la voix. On va faire par exemple. Moi, je vais te taper dans les mains. Toi, tu vas faire un rythme avec ta voix. Okay, vous continuez les bruits de bouche. Vous continuez. 3, 4, et... Super. Tu continues. Bon courage. Et puis, Johnny. Toi, tu vas chanter. Tu veux bien chanter un petit truc?
Chanter quoi? Je ne sais pas.
Tu peux chanter ça? Tu peux chanter que tu ne sais pas?
Je ne sais pas.
Bon, il ne nous reste plus que 20 secondes.
Du coup, pour finir, on va faire un petit clap de main avec ce staccato. En même temps, c'est parti. Yay! Pam! Ok? Pam! Ouais. Pam! Voilà.
Bon, ben merci beaucoup en tout cas, Pierre.
C'est pas évident.
On ira faire les initiations
en real life. En tout cas.
Il faut un peu plus de temps quand même en vrai pour expliquer bien le.
Bon, passez un bon week-end sur ça en tout cas. Et puis on se retrouve lundi à
18h10. C'est le temps
ASMR. Topette.
Sur une main. www.radio-g.fr.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Aujourd'hui, j'anime l'émission avec Erika. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien. Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous avons la grande chance d'accueillir Aurélia, Anne Gaïdic et Olivier qui sont membres de l'AAVAS, l'association d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Et dans le studio, on reçoit également la belle équipe des journalistes de l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Elles vont nous présenter leur chronique mensuelle tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, Erika, tu vas faire ton éditorial.
Je voulais commencer cette émission en revenant sur les caméras piétons des forces de l'ordre qui ont vocation à apporter de la transparence, éclairer des faits et donc renforcer la confiance. L'enquête journalistique parue cette semaine sur les manifestations du 25 mars 2023 contre les méga-bassines à Sainte-Soline nous laisse à penser que pour l'instant, la réalité serait bien différente.
Tu fais référence à ce que Mediapart et Libération ont découvert dans les images des gendarmes.
Oui, les journalistes ont pu visionner les images tournées par les forces de l'ordre lors de cette manifestation. Et ce qu'on y voit et entend interroge profondément. Des consignes très discutables, un ton agressif et insultant, des pratiques qui relèvent plus de l'affrontement que de la protection, et surtout, selon l'enquête, aucun gendarme n'aurait été interrogé spécifiquement sur le contenu de ces images. Autrement dit, les caméras ont enregistré, mais personne n'aurait voulu en tirer les conséquences.
Tu veux dire que filmer ne résout rien ?
En partie seulement. La caméra filme, mais la caméra n'empêche rien. Pas sans un système qui utilise réellement ce qu'elle montre.
Et que dit Amnesty à ce sujet ?
Amnesty ne dit pas que les caméras piétons sont inutiles. Elles peuvent être un outil précieux pour documenter, pour comprendre, pour garantir des droits. Mais Amnesty rappelle que l'outil ne sert à rien sans des garanties solides autour. Ce n'est pas la caméra qui protège, c'est le système qui encadre son usage. Notre position tient en trois points, très simples. Un accès réel aux images pour les victimes, des enquêtes réellement indépendantes, un cadre transparent et contrôlé. Ce n'est pas un gadget et aujourd'hui ces conditions ne sont pas pleinement réunies.
Et tout ça, ça se produit dans un climat où la défiance est de plus en plus forte.
Exactement. On entend des prises de parole très virulentes, parfois outrancières contre les forces de l'ordre. Qu'on partage ces propos ou non, ils disent quelque chose. Ils révèlent un fossé qui se creuse. Et les caméras piétons ne résoudront rien à ce fossé si les images ne servent pas de base solide pour établir la vérité ou pour reconnaître les fautes quand il y en a. Elles ne rassurent pas, elles n'apaisent pas, elles n'expliquent rien. C'est bien pour cela qu'on peut évidemment se féliciter de la nouvelle obligation faite aux agents du tribunal de Bobigny. En effet, les policiers affectés au dépôt devront désormais allumer les caméras piétons dont ils sont équipés à chacune de leurs interventions en cellule. Cette annonce fait suite à l'incarcération de deux agents accusés d'y avoir violé une jeune femme.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces caméras piétons ?
On les garde bien sûr, mais on les replace là où elles doivent être. Non pas comme un remède miracle, mais comme un outil parmi d'autres dans un système qui protège réellement.
Qui protège quoi finalement ?
Le respect des droits humains, tout simplement. Ainsi, rappelons que manifester en toute sécurité est un droit. Le droit d'exprimer une opinion sans craindre la violence ou la répression. Le droit d'être entendu et pas seulement surveillé. Le droit de participer à la vie démocratique sans risquer d'y laisser sa santé ou sa vie. Amnesty est aussi malheureusement trop souvent dans l'obligation de rappeler que même en détention, tous les droits humains restent valables.
Et au-delà des caméras piétons, qu'est-ce que tout cela dit de notre rapport aux droits humains ?
Ça dit surtout que nous devons rester vigilants. Parce que derrière la question technique des caméras piétons, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La manière dont un État, et donc une société, traite celles et ceux qui s'expriment, qui contestent, qui se mobilisent. Ce qui ferait la différence, c'est de remettre les droits fondamentaux au centre. Pas comme un discours, mais comme une pratique quotidienne. Pas seulement dans les textes, mais dans les réalités des contrôles, des manifestations, des interpellations, des détentions. Amnesty le rappelle, la sécurité et les droits humains ne s'opposent jamais. On n'a pas à choisir entre les deux. Une force publique qui respecte les droits est une force publique plus forte, plus légitime, plus fiable. Et c'est ça, au fond, qui devrait guider nos décisions. Que chaque outil, caméra, formation, protocole, enquête, serve un objectif simple, faire en sorte que personne, nulle part, ne perde ses droits lorsqu'il exerce une liberté, traverse une rue ou se retrouve sous la responsabilité de l'État. La technologie peut aider, mais ce qui protège vraiment, ce sont les garanties, les contrôles et la volonté politique de ne jamais considérer ses droits comme optionnels. C'est là que tout se joue, dans cette exigence-là. et dans notre capacité à ne pas la laisser s'éroder.
Merci Erika. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Anne Gaédic, Aurélia et Olivier de la Havas. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors sur votre association ?
Donc, la Havas, c'est une association d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Nous recevons des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Nous recevons également des proches de personnes ayant subi des violences sexuelles à partir de 16 ans.
Vous avez créé cette association il y a combien de temps ?
Alors, cette association aura 30 ans en 2026. C'est un événement fort qui va arriver pour l'association puisqu'on va préparer les 30 ans de l'association l'année prochaine. Et donc, elle a été créée à l'initiative de travailleuses sociales qui intervenaient dans des foyers pour jeunes filles et qui se sont rendues compte à travers la parole qu'elles recueillaient de ces jeunes filles qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles, que leur mère avait été elle-même victime, parfois leur grand-mère, etc.
Et justement, la situation des violences sexistes et sexuelles sur Angers, les alentours ou le Maine-et-Loire, c'est comment aujourd'hui ?
Comme je le disais au départ, il y a 30 ans, ces travailleurs sociaux ont créé ça. Et donc effectivement, il n'y avait pas de structure qui existait, d'où la création de la Havas. Au départ, la Havas était une permanence par mois en soirée pour entendre la parole des victimes. Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé. La Havas est bien implantée sur le territoire angevin et même du 49 en général. Et puis, on travaille en partenariat avec d'autres associations qui s'occupent des victimes, entre autres de violences sexuelles, dont le CIDFF, le planning familial, Solidarité Femmes, etc.
Vous fonctionnez comment ? Il y a des professionnels, des bénévoles ?
Oui, on est deux professionnels actuellement. Mon collègue Rémi Jonquière qui est à mi-temps et moi, donc je suis Anne Gaédic Le Gallio. Je suis donc psychologue comme Rémi Jonquière et je suis à 80%. Et on intervient avec des bénévoles, de nombreux et nombreuses bénévoles qui sont tous et toutes issus du médico-social. Donc parmi les bénévoles, il y a des psychologues, des médecins, une sage-femme, une infirmière, des assistantes sociales, des éducatrices spécialisées. Et on reçoit toute personne en binôme de professionnels pour des entretiens de soutien psychologique qui peuvent durer dans le temps. Voilà, ça appartient aux personnes de s'engager comme elles le souhaitent dans le parcours de soins qu'on peut leur proposer.
Donc c'est un soutien psychologique, pas juridique. Vous n'accompagnez pas si la personne veut porter plainte ou veut engager, je sais pas, des poursuites envers la personne
non.
qui leur a fait subir. D'accord.
Non. Nous, on fait un rappel de la loi. On vient dire la loi, on vient nommer ce qu'elles ont subi. En revanche, il appartient à chacun et chacune de se positionner par rapport à la justice. Et donc, si les personnes souhaitent s'engager dans une démarche judiciaire, on les informe et on les oriente. Mais on les informe, c'est une information minimale par rapport à leurs droits, puisque nous n'avons pas de juriste dans l'association. En revanche, on les redirige vers les associations angevines ou choletaises, plutôt angevines, parce que ça fonctionne avec des permanences, qui font de l'information aux droits.
D'accord. Et toi, Aurélia, tu es bénévole ?
Je suis psychologue bénévole depuis 2 ans à peu près. Je souhaitais m'engager par rapport à ce type de prise en charge parce que je trouvais qu'il y avait peu de choses qui étaient faites pour les victimes d'agressions sexuelles et donc ça a du sens pour moi.
Et pour toi, Olivier ?
Alors moi, je suis pas bénévole. Je suis en stage cette année en fin de formation de psychologue. Donc là, il me reste encore 6-7 mois avant de commencer à pouvoir avoir le titre et pouvoir travailler. Donc là, je suis pour un stage de 500 heures. Donc là, je vais commencer les accompagnements dans les semaines qui viennent.
Donc vous êtes une association, vous avez forcément besoin de financement, ça se passe comment du côté de chez vous ?
Nous faisons des demandes de subventions chaque année auprès de la ville d'Angers, la ville de Cholet, l'agglomération de Cholet, la DFE, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, le ministère de la Justice, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, le département bien sûr, l'Ordre des avocats et voilà, j'espère que je n'oublie personne, en tout cas je remercie tous ces financeurs. Même si ça reste quand même relativement précaire, puisque c'est des demandes de subventions que l'on doit renouveler chaque année.
Oui, de ce fait, vous faites appel aux dons ?
Oui, certaines personnes peuvent effectivement nous donner la somme. Soit des personnes que l'on accueille et qui, pour nous remercier, ont besoin de nous donner de l'argent. Soit, c'est quand même beaucoup ça, beaucoup de personnes qui ont été accueillies et qui à un moment ont voulu faire un geste vers l'association.
Pour parler de ces personnes, tu as énoncé parmi tous les donateurs une association en lien avec les femmes. Même si ça reste évidemment complètement anonyme, il y a beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes qui viennent vous voir.
Oui, on reçoit une majorité de femmes. Ouais.
On est au mois de novembre, la journée du 25, la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est bientôt. D'ailleurs, c'est le 22 pour Angers, la grande manifestation. Ça doit résonner particulièrement, je suppose, dans votre association.
Alors oui, même si l'association n'est pas militante, contrairement à d'autres associations sur Angers, on n'est pas une association de militantisme, on ne milite pas, mais voilà, on est quand même très sensibilisé. On est peut-être plus considéré comme un lieu de soins, en fait, pour les partenaires, pour le réseau, que comme un lieu de militantisme.
Il y a aussi des enfants, hélas, qui sont victimes de ces agressions. Ces enfants ne peuvent pas venir tout seuls, j'imagine.
Non, alors nous, on ne reçoit pas d'enfants. Enfin, on reçoit les mineurs à partir de 16 ans. En deçà, on estime que peut-être un accompagnement plus généraliste et moins ciblé sur les violences sexuelles est plus pertinent. Donc on ne reçoit pas d'enfants. On reçoit des jeunes ados. Enfin, des jeunes ados, non, des ados déjà.
Et des femmes, donc. Et j'ai une pensée particulière pour ces femmes, on peut parler de double peine, qui peuvent se trouver à la rue, ou bien de femmes migrantes. Je ne sais pas si pour elles c'est facile ou pas de venir vous trouver.
Je ne suis pas sûre que ça soit facile. Heureusement, ces personnes sont souvent en lien avec des travailleurs ou travailleuses sociales d'autres institutions qui les redirigent vers nous. Voilà, à un moment, on avait un partenariat avec l'APTIRA pour de la traduction. Malheureusement, l'APTIRA n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a été moins confrontés ces derniers temps à des personnes d'origine étrangère qui ne parlaient pas français. Mais sinon, effectivement, on reçoit aussi des personnes en situation de migration qui ont vécu des violences sexuelles, soit au pays qu'elles ont fui, soit en France. Et donc voilà, moi je me souviens avoir fait avec mon collègue Rémi des entretiens en anglais, alors que je n'ai pas une maîtrise excellente de l'anglais, mais on est amené à recevoir des personnes effectivement issues de l'immigration.
Donc ce sont des accompagnements personnalisés que vous faites ?
Tout à fait.
Des entretiens ?
Des entretiens.
Il n'y a pas d'atelier, enfin je ne sais pas, où plusieurs femmes pourraient discuter entre elles ?
Alors ça tombe très bien que vous nous posiez la question. Nous allons ouvrir un premier groupe de parole à destination des femmes victimes de violences sexuelles à partir du mois de janvier pour 8 séances d'une heure et demie entre janvier et juillet 2026. Voilà, ça a été un grand chantier de la HAVAS. On a été formés, on est 12 ou 13 de l'équipe à avoir été formés par un organisme nantais, Forcifa, de systémie au groupe de parole. Et donc on va ouvrir ce premier groupe là en janvier.
Alors 2026, c'est l'anniversaire. Donc est-ce qu'il y a des actions à venir, une fête, c'est peut-être un grand mot, mais des choses particulières ?
C'est encore en élaboration. Je peux rien dire pour l'instant.
Ah, c'est le secret.
Justement, alors, il y a des choses que vous avez faites dont vous avez envie de nous parler ?
Alors, peut-être ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on est amené aussi à la demande de structures, d'organisations. On est amené à intervenir, non pas en tant que formateur ni formatrice, mais plutôt pour sensibiliser les gens à la question des violences sexuelles. Donc on est intervenu près de services de mairie ou dans des IME, on intervient aussi à l'école des travailleurs sociaux à Angers, enfin voilà. Donc on peut proposer aussi ce genre d'intervention.
Dans des lycées aussi ?
Non, ça s'est pas encore fait. Enfin, on a pu intervenir dans des lycées, mais sous d'autres formes. Par exemple, avec une collègue, on intervenait au lycée, dans un lycée à Cholet, auprès d'une lycéenne. Voilà, mais c'était pour des entretiens en fait.
Pas pour faire de la prévention ?
Pas pour faire de la prévention auprès des lycéens et lycéennes, non. On a pu avoir ce genre de demande, mais finalement qu'on a redirigé vers une autre association, Colosse au pied d'argile, qui est spécialisée dans la formation auprès des jeunes.
D'accord.
Sur ces questions de violence sexuelle.
Donc il y a vraiment un lien fort entre les associations qui travaillent autour de cette terrible thématique, en fait.
Moi, je trouve que oui. Ouais.
D'accord. Et comment fait-on pour vous contacter, justement ?
Vous pouvez nous appeler au 02 41 36 0207 et nous laisser un message si on ne répond pas. On s'engage toujours à répondre. Notre adresse mail, c'est contact@ahavas.fr.
Vous avez un site internet aussi ?
On a un site internet, ahavas.fr.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Tu andares, tu assistes, tu amas. Farà fine musso, farà fine musso. You're stronger than you know. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. Needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, respect our woman's daughters, sisters, mothers, warriors. Farafina Musso, Farafina Musso, Farafina Musso. You're stronger than you know.
Nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles, vos cœurs frondeurs, âmes indociles, lumière, lueur, éclair de nuit, vos champs de fleurs couvrent nos ruines. Écoute, les cœurs, j'écoute, vos cœurs. Qu'importe l'abîme, toujours revient la vie.
Venez d'écouter Farafina Musso, un chant en langue anglaise et française chanté par Loubiana accompagnée de Gaël Faye, une très belle ode aux femmes d'Afrique. Et vous êtes de retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est bientôt l'heure des actualités. Mais tout d'abord, c'est la chronique de notre chère antenne jeune qui sera proposée ce mois-ci en direct. Mais oui, bonjour à vous deux, Léna et Eulalie, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bah, ma foi, fort bien. Vous nous parlez un tout petit peu de vous alors, comment s'est passée la rentrée à l'antenne jeune?
Très bien, on a reçu pas mal de personnes, on est passé de une quinzaine de personnes au double.
Allez!
Ouais, on a pas mal gagné et en plus là on est en train de commencer à faire nos premiers projets, donc on a hâte que ça se passe et ça se concrétise.
Donc vous êtes de la commission communication, journalisme, comment ça s'appelle?
Journalisme.
Oui. Journalisme, ça fait plus sérieux, bravo. Très bien.
Je suis dans le pôle du coup journalisme et événementiel, Elena. Alors moi je fais partie du coup du pôle journalisme et également du pôle événementiel cette année.
D'accord, et c'est, pardon, c'est 30 personnes, c'est qui? Belbey, l'université Saint-Serge,
en fait,
Luco?
C'est toute la ville d'Angers. Enfin, tous les étudiants qui peuvent venir entre 16 et 25
oui.
ans.
Super.
Donc, on a à la fois des personnes dans les universités, mais aussi des lycéens, des terminales. Moi aussi, j'étais un peu choquée, je ne savais pas qu'on les intéressait, mais c'est super bien. Et voilà, donc moi, je suis référente du pôle journalisme. Donc, voilà, et l'association, elle est divisée en plusieurs secteurs. On a aussi le pôle communication, on a le pôle partenariat, et également le pôle EDH, Éducation des droits de l'homme, qui est un nouveau pôle qu'on vient d'ouvrir pour sensibiliser les jeunes